Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Nous ne sommes pas certains de la date exacte de sa naissance. Nous ne connaissons pas un manuscrit de sa main, si l'on peut oser ce pléonasme. Nous savons qu'il était, par sa famille, du côté des guelfes. Mais guelfes blancs ou guelfes noirs? Nous savons qu'il respectait, dans sa poésie, les lois objectives, mais qu'il avait de la sympathie pour les gens qui se trouvaient en enfer. En enfer, dans son enfer. Et ce dont nous sommes sûrs, persuadés, en tout cas, c'est qu'à l'âge de 9 ans, il tomba amoureux de Béatrice, âgée, elle, de 8 ans et quelques mois. Béatrice, son ange personnel. Poésie sur parole, première diffusion sur France Culture le 8 juillet 1995.
Poésie sur parole, magazine. André Velter. Avec Jacqueline Risset, un numéro spécial consacré à Dante. Jacqueline Risset, vous avez commencé par publier un essai sur Dante en 1982 dans la collection Écrivains de toujours au Seuil. Ensuite, vous avez traduit l'intégrale de la Divine Comédie. Et maintenant, vous donnez une vie de Dante. Est-ce qu'à proprement parler, c'est une biographie ?
Justement, je crois que votre question m'intéresse beaucoup parce que moi, je dois dire que j'étais très très hostile au genre biographique. Je veux dire, quand on s'intéresse à la poésie, je crois que c'est peut-être même l'autre côté. La poésie ne va pas sans une certaine ellipse et sans une espèce de refus de ce que la biographie en général a de bavard ou en tout cas d'exposé. Et moi, mon approche aussi de Dante était naturellement à travers le texte de Dante. Le choc que j'ai eu, ça a été vraiment ce texte, à quel point il avait des violences dans la proximité du texte à la poésie telle qu'on l'aime aujourd'hui. Et la biographie de Dante pose des problèmes parce qu'on ne sait presque rien.
Ça, il vous a beaucoup aidé.
C'est vrai que Dante aide parce que on peut aussi voir son œuvre organisée par une sorte d'autobiographie. Quand je me suis dit qu'on pouvait aborder cette œuvre, cette idée de biographie à travers une autobiographie, sans naturellement s'identifier à Dante, ce qui serait ridicule, mais essayer de partir de ces sortes de noyaux extraordinairement vivants qu'il donne lui-même.
Effectivement, le manque de documents à propos de la vie événementielle de Dante, vous laissez une liberté de manœuvre quand même assez grande. Et surtout, elle vous renvoyait obligatoirement à l'œuvre.
Oui, c'est vrai. Je dois dire que cette absence de traces est absolument extraordinaire. On pourrait se demander si Dante a existé, à la limite. Mais ce qui est curieux, c'est par exemple que pour quelqu'un qui était de sa vie aussi connu, en fait, il faut penser que même les artisans de Florentin récitaient l'Enfer par cœur, déjà de son vivant. C'était donc une œuvre qui a eu une diffusion orale. On était à la limite de la diffusion encore entre oral et écrit. Et donc la comédie, en tout cas l'enfer qui a tout de suite circulé du vivant de Dante, est devenue tout de suite une chose absolument célèbre. Et pourtant, de Dante lui-même, presque rien. C'est-à-dire, on n'a pas un manuscrit de Dante, on n'a même pas son nom écrit par lui. Et la chose qui m'a beaucoup frappée quand je me suis approchée de lui, c'est cette fait que le seul nom écrit Dante Alighieri est écrit par le greffier du tribunal dans la liste des condamnés à mort. Parce qu'il a été condamné à mort, ça aussi c'est une chose qu'on ne sait pas toujours, on sait qu'il a été exilé. Mais l'aspect absolument dramatique de cette vie échappe souvent, c'est-à-dire l'exil, comme on pensait, bon, il était exilé de Florence, mais il était en Italie, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas d'Italie, il était donc pas si loin, en fait. Donc, on peut penser un exil doré, disons. Ce n'était pas le cas.
Sont en fait les balises de sa vie dont on est sûr.
On est sûr à peu près de sa naissance, c'est-à-dire qu'il est né à la fin de mai 1265. Lui-même rapporte qu'il est né sous la constellation des Gémeaux, à laquelle il est extrêmement attaché. On a des traces aussi de son enfance, des mouvements de sa famille, il y a un événement qui pour lui est l'événement fondamental, le seul événement fondamental de son existence, qui est la rencontre de Béatrice à l'âge de 9 ans. C'est une rencontre dans une fête du 1er mai chez le riche Folco Portinari, le père de Bice, si l'on admet que Bice Portinari, c'est Béatrice. Parce que là, les problèmes commencent. Et pendant des siècles, la critique dantesque a soutenu très gravement qu'il n'était pas possible que quelqu'un de si important que Béatrice dans l'œuvre de Dante soit ramenable à une petite voisine, du quartier où habitait Dante à Florence. La famille de Portinari était une famille riche, alors que Dante était d'une famille qui était un peu ruinée. Son grand-père était riche, mais était agent de change. Son père, qui était peut-être usurier, il a eu un peu honte de son père, semble-t-il, était beaucoup plus pauvre. Et donc, il n'était pas question de mariage entre ces deux enfants. Et Dante a été, et ça, c'est une des certitudes qu'on a, il a été fiancé avec une jeune fille qu'il a à l'âge de 12 ans. Quand son père meurt, parce qu'il y a d'autres événements importants, c'est la mort de sa mère, quand il avait 8 ans à peu près. Enfin, 8 ans, c'est-à-dire il a rencontré Béatrice un an après la mort de sa mère. Et son père meurt quand il avait 12 ans, et le jeune Dante devient l'aîné et devient l'aîné aussi par rapport au fils de son père qu'il aura d'une deuxième épouse. Donc Dante orphelin, Dante enfant pauvre et orphelin, ça c'est aussi une certitude, grandissant un peu solitaire dans la ville, au milieu de la ville, comme un enfant non pas abandonné, parce que son grand-père, qui était un personnage assez remarquable et ami de tous les puissants de la ville, lui racontait aussi des histoires, l'histoire mythique de Florence.
En fait, il a accès à l'ensemble de la société de Florence de cette époque, à cause justement de sa biographie. Orphelin, il est quand même proche des gamins des rues, et par son grand-père, il touche aux plus nobles familles de la ville, enfin à tous les puissants.
Exactement, et il connaît tout et il regarde tout. Il a déjà, très, très jeune, très enfant, cette capacité de saisir, en un regard, en fait, une situation. Et comme aussi les légendes, les personnages dont on lui parle, les personnages de la chronique florentine, qui est extrêmement importante parce que Florence est à ce moment-là une ville où règnent sans cesse les conflits, les batailles, les factions, les guelfes et les gibelins sont toujours en guerre. Mais en même temps, c'est une ville qui est dans un essor économique impressionnant.
En dépit de tous les conflits.
En dépit de tous les conflits, c'est-à-dire qu'il y a des quantités de gens qui viennent habiter en ville, les nobles viennent habiter en ville, et il y a cette civilisation urbaine qui est tout à fait extraordinaire. Ce qu'il y a de plus urgent à faire pour ces classes sociales et en élargissement constant, c'est de faire des œuvres d'art. Et c'est ainsi que s'édifie, pendant l'enfance de Dante, la grande cathédrale, le Duomo de Florence, celui que nous voyons aujourd'hui.
Et Dante, au milieu de ce remue-ménage extraordinaire, comment lui se développe-t-il ?
Eh bien, il se développe, d'abord, il fait, et ça c'est sans doute lié au grand-père dont vous parliez, à Bellincione, qui lui fait donner une éducation par un personnage extraordinaire de la ville, qui s'appelle Brunetto Latini, et à qui Dante rend un hommage merveilleux dans l'enfer.
Il le met en enfer quand même.
Il le met en enfer, mais oui, parce que Dante est quelqu'un qui respecte les lois objectives, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une sympathie incroyable pour des gens qui sont en enfer. Je veux dire, d'avoir une estime, d'avoir une attraction amoureuse pour Francesca lorsqu'il la voit en enfer, etc. Ou ces mouvements de respect filial qu'il a pour Brunetto Latini, qui est condamné comme sodomite et qui reçoit la pluie de feu. Alors lui fait très bien attention à ne pas entrer sous la pluie de feu, c'est quand même pas agréable, mais il se met le plus près possible en étant en dehors de la pluie de feu pour écouter et pour manifester même par l'attitude de son corps, son respect à son maître, et qui était déjà vieux lorsqu'il lui donnait des leçons.
Il lui apprend quoi ?
Il lui apprend d'abord la grammaire, qui indique aussi le latin, et qui indique aussi la familiarité avec les lois linguistiques. Il apprend toutes les disciplines qu'apprennent les enfants, la rhétorique, c'est une chose extrêmement importante, et ils font donc des lectures aussi très, très riches. Il ne prend pas encore à ce moment-là ce qu'il apprendra aussi plus tard, la théologie, la philosophie. Il le fera ça quand il sera adolescent. Mais à ce moment-là, il suit ces leçons de Brunetto Latini, qui avait une expérience remarquable, puisqu'il avait écrit une sorte d'encyclopédie qu'il a appelée le Trésor, et qu'il avait écrit en français. Et ça, c'est une chose assez rare. Et Brunetto Latini lui-même avait été longtemps à la cour d'Alphonse X à Grenade, et il avait par conséquent une grande familiarité avec la civilisation arabe. Et donc, il lui a apporté une sorte de richesse culturelle tout à fait étonnante. Et d'ailleurs, par la suite, on verra que Dante ne cesse d'enrichir cette culture de façon mystérieuse, parce que lorsqu'il sera en exil, on ne sait pas comment il a accès à tous les livres dont il parle, qu'il cite. Ça reste une espèce de bibliothèque fantôme, parce que comment transportait-il sur les routes ces bibliothèques ? Alors Dante a commencé par être un poète d'avant-garde, a fondé un mouvement de poésie qui s'appelait le Dolce Stil Nuovo, et qui était un mouvement qui se rattachait directement aux troubadours. D'ailleurs, Dante est si près des troubadours qu'il écrit la fin d'un chant du purgatoire en français, en provençal. C'est-à-dire Arnaud Daniel, il rencontre Arnaud Daniel au purgatoire, et Arnaud Daniel lui compose une petite réponse en vers qui est donc composée dans la langue d'Arnaud Daniel en français. Ça, c'est déjà ce sentiment de proximité qu'il avait très fort. Puis il invente donc cette nouvelle forme de poésie, et Lorsque la situation de Florence devient extrêmement tendue et que lui est devenu adulte, il s'intéresse de plus en plus près à la situation politique. Alors, il est, par sa famille, guelfe, ce qui veut dire, disons, en simplifiant énormément les choses, ceux qui sont pour l'indépendance de Florence et qui sont alliés au pape, parce que le pape est contre l'empereur. Donc, il y a deux clans. Mais la chose se complique lorsque, de plus en plus, les papes veulent eux aussi
régner
sur Florence, annexer Florence. Et c'est le pape Boniface VIII qui sera le grand ennemi de Dante, qui appellera Florence le cinquième élément. C'est-à-dire, il n'y a pas uniquement l'eau, l'air, la terre et le feu, il y a aussi Florence. C'est vraiment la huitième merveille du monde, mais c'est encore plus que dire la huitième merveille du monde. C'est la poser à la base cosmique, en somme. Et donc, elle est désirée, cette Florence, et le pape la veut. Et donc, à ce moment-là, les guelfes s'émancipent du pape aussi. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent guelfes blancs pour se distinguer des guelfes noirs qui, eux, sont alliés avec le pape et qui veulent appartenir, en quelque sorte, au pape. Et alors, Dante appartient donc à cette faction des guelfes blancs qui soutiennent la montée extraordinaire à la fin du XIIIe siècle de la classe populaire, de la classe des artisans. Ceux qui veulent faire partie du gouvernement doivent s'inscrire à une catégorie, à une corporation. Et c'est ainsi que Dante s'inscrit à la catégorie des apothicaires, ce qui comprend aussi les médecins, les pharmaciens et les médecins. Et naturellement, il n'exercera jamais la médecine. Mais c'est une façon de pouvoir entrer dans le pouvoir. Ce que Dante exprime de plus en plus clairement et qui fait que après avoir été un homme politique pratique, disons, il s'exprime aussi comme grand théoricien politique, la séparation des pouvoirs. C'est en cela que Dante, à mon avis, mais pas simplement à mon avis, je veux dire, est un grand théoricien politique moderne. C'est-à-dire que je crois que les gens comme Sanguinetti ou d'autres qui disent que Dante est un réactionnaire parce que il est attaché, il n'aime pas trop les gens nouveaux, les gens qui font des fortunes ultra rapides et qui n'ont pas d'éthique. Pour Dante, le problème moral est extrêmement important. Et donc, il est attaché à certaines classes d'anciens Florentins qu'il perçoit à travers sa famille, à travers cet aïeul idéalisé, etc. Et donc, lié à cette ancienne Florence. Mais, en même temps, quand il formule cette théorie de la séparation absolue des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, le pape n'a aucun regard sur les décisions qui regardent la cité et qui regardent donc l'empereur. Et là, on se dit que c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui, où il y a ces absolument atrocités du fondamentalisme qui gagne et qui est bien sûr lié au fait qu'il n'y a pas de séparation entre pouvoir religieux et pouvoir politique. Il leur faudrait quelques injections de la théorie de Dante.
Et alors, il est donc condamné quand et pourquoi ?
Il est condamné en 1302 sous le prétexte qu'il a fait de la corruption. Mais je veux dire, ce sont des attaques qui sont menées. Je veux dire, Dante est un incorruptible par nature. C'est une nature d'une exigence totale. Mais ce genre de procès était fait d'ailleurs. C'était des sortes de procès collectifs. Il est condamné donc d'abord à l'exil. Et puis, s'il ne se présente pas avec 10 autres, c'est le moment où les guelfes noirs prennent le pouvoir, appuyés par le pape. et par Charles II d'Anjou qui vient occuper Florence en quelque sorte. Et à ce moment-là, il est dit dans la sentence que si les condamnés à l'exil ne se présentent pas, leur condamnation sera changée en condamnation à mort. Dante se garde bien de se présenter et il est donc la sentence est changée 2 mois après, en mars, en condamnation à mort.
À cette époque-là, pour le peuple de Florence, Dante est plutôt un homme politique. En tant que poète, il est connu comment à cette époque ?
Il est connu. Lorsqu'il a publié en 1293 la Vita Nuova, qui est cette sorte de d'autobiographie poétique absolument magnifique, et il a aussi publié des rimes, des poèmes. Si on lit la Vita Nuova, on voit qu'il décide d'écrire une grande œuvre à la fin de sa vie, qui serait consacrée à Béatrice, qui vient de mourir. Et il voudrait écrire une œuvre qui célèbre Béatrice au paradis. Donc, si on veut, la comédie naît d'abord comme paradis, disons comme vision paradisiaque de Béatrice.
Autour de l'image de Béatrice.
Autour de l'image de Béatrice.
Comment perdure ce lien qui est né d'un coup d'œil entre un gamin de 9 ans et une gamine de 9 ans qui sont voisins? Ils se sont vus beaucoup ou on a l'impression que c'est véritablement une sorte de coup de foudre qui dure?
C'est un coup de foudre qui dure, je crois que l'expression, et on peut la garder. Mais je crois qu'elle a je crois que aujourd'hui on n'est plus comme les positivistes dantesques qui croyaient que c'était absolument pas possible que la petite Béatrice ait donné cette présence de Béatrice jusqu'à la fin de la vie de Dante, jusqu'à la fin de son œuvre, jusqu'à la dernière ligne de son œuvre. En réalité, je crois qu'une créature que nous rencontrons dans la vie quotidienne peut représenter en même temps, et nous l'apercevons en même temps comme les deux choses, c'est-à-dire comme à la fois cette petite fille très gracieuse qui danse dans la rue ou chez son père dans la fête que le jeune garçon voit et rencontre, et en même temps l'image d'une réalité infiniment supérieure. Elle devient en quelque sorte, elle est, comme on dit dans la mystique musulmane, son ange personnel, c'est-à-dire l'accès qu'il a avec tout le symbolisme du monde. Et toutes les questions religieuses et théologiques et symboliques sont pensées par lui à travers cette image qui est l'accès. Et donc, il s'agit même pas de ce qu'on a appelé la donna angelicata, c'est-à-dire la femme qui est devenue ange et donc qui est privée de réalité, etc. Elle n'est pas du tout privée de réalité. On pourrait dire même, à mon avis, que les rencontres qu'il y a entre Dante et Béatrice au paradis sont des rencontres très érotiques, qui a une sorte de force, de violence dans les regards, qui est tout à fait extraordinaire, je veux dire. Et dans laquelle je crois que Dante met aussi, et ça c'est la biographie aide à le penser, met aussi toute la tendresse violente que peut avoir un enfant très petit envers sa mère. Et cette disparition de la mère lorsque Dante avait 9 ans, je pense, a dû contribuer à fondre aussi les deux figures, Béatrice et Bella, qui était le nom de sa mère, et faire que il ait gardé envers le féminin, de façon générale, une sorte d'attraction et d'amour absolument total. Et donc, il y a cette dimension chez Dante, en fait, on n'en finit pas, parce qu'il y a, je veux dire, cette présence de la passion politique, il y a cette présence aussi de la passion amoureuse et symbolique. C'est comme si tout l'aidait à, je veux dire, il y a cette passion aussi chez Dante de comprendre, de déchiffrer, et tout pour lui l'aide dans cette démarche.
Mais ce qui finira quand même par le tuer, c'est la passion politique, même de façon indirecte.
Oui. Oui, c'est vrai, puisque c'est d'exil qu'il meurt. Et il mourra finalement tôt, à 56 ans, comme Proust d'ailleurs.
De la malaria.
De la malaria, après avoir être allé, semble-t-il, ça c'est encore une des choses qu'on met en doute, mais il semble qu'il soit vrai qu'il soit allé au moment où il a eu des protecteurs pendant qu'il était en exil. Heureusement, il a eu quelques princes qui l'ont protégé, certaines fois de façon très pénible, parce que, par exemple, il était dans la cour, au même niveau que les bouffons, et devant faire le bouffon lui-même. Il avait un esprit de répartie extraordinaire, ce qui fait que ça l'aidait beaucoup à tenir sa place et aussi sa dignité vis-à-vis de ce peuple de courtisans. Mais certaines fois, ça lui a été extrêmement dur. Quand il parle de monter les escaliers d'autrui et du goût de sel aussi de l'exil, on sent que pour lui, ça a été une source de souffrance absolument inouïe. Et avec, si on pense aussi à son attachement, la tendresse de son attachement pour Florence, c'est quelque chose. Et alors, la violence des reproches qu'il fait à Florence est vraiment à la mesure de cette tendresse. Mais en même temps, il a eu aussi quelques protecteurs qui, petit à petit, l'ont compris, l'ont admiré, l'ont aimé pour ce qu'il était. Et en particulier, le dernier protecteur, qui a été vraiment peut-être les moments le plus heureux de sa vie, dans lequel il pouvait faire ce qu'il voulait. Il finissait le paradis et il écrivait aussi sur des questions de science, sur la question de la terre et de l'eau. Est-ce que la surface de la terre est plus haute que celle de l'eau, etc. Des questions qui étaient des questions de science de l'époque et dans lesquelles il se prononçait très sérieusement. Et il y avait autour de lui tout un groupe de gens qui étaient en quelque sorte des disciples de poésie, etc. Mais Guido da Polenta, qui était le prince de Ravenne, l'a prié, semble-t-il, d'aller faire une ambassade auprès des Vénitiens, parce qu'il y avait toujours des guerres là aussi, les Vénitiens envahissait Ravenne envahissait les eaux de Venise, etc. Et il serait donc allé à Venise et revenu avec la malaria. On raconterait qu'il serait rentré par la terre, au lieu de rentrer par le bateau, ce qui était la chose la plus facile, mais de peur que il, avec son éloquence célèbre, il convainque les marins vénitiens, on l'a fait rentrer par la terre, c'est-à-dire par les marais, et il est arrivé à Ravenne malade de la malaria, et il est mort comme d'ailleurs son ami Cavalcanti, comme Henri VII qui était le prince qu'il a admiré. Il est mort donc à Ravenne de malaria, mais avec ses fils qui étaient autour de lui, ses fils et sa fille qui s'appelait Antonia et qui était religieuse et qui, comme religieuse, avait pris le nom de Béatrice.
Jacqueline Risset, traductrice de la Divine Comédie, publiée en Garnier Flammarion, est également l'auteur d'une Vie de Dante, éditée chez Flammarion. Mixage, Claude Jubier. Réalisation, Isabelle Mézil. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 juillet 1995. Vous pourrez la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.